pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de Radio Immo d'une part et de Radio Territoria d'autre part pour notre deuxième émission spéciale autour du thème, cette fois-ci, des promoteurs. Sont-ils acquis à la cause de la nature? Et nous allons voir comment est-ce que ces groupes, petits et grands, sont passés d'un engagement RSE à une déclinaison opérationnelle. Et puis nous aurons le témoignage de la société civile. Alors, pour en parler avec nous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Papillon. Catherine qui est directeur développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. Et son propos fera écho à ceux de Thierry Laroupon, son président. Catherine Pouliquen, vous êtes directrice de la communication et de la RSE de Crédit Agricole Immobilier. Pascal Louchet, responsable environnement et développement durable de GGL Aménagement. Et enfin, Emmanuel Régent, président fondateur de Biodiversio, qui est une association qui vise la création de 10 lots de nature en zones urbanisées et qui a été créée fin 2020 en pleine crise sanitaire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors signalons Catherine et Catherine, les deux Catherine P, ça va nous poursuivre pendant toute cette émission. Vous avez beaucoup de points communs, dont celui-ci, que vous êtes toutes deux engagées au sein de l'association CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier, qui a créé et qui fait évoluer les labels Biodiversity, et que vous êtes aussi membre du C3D, le collège des directeurs et directrice du développement durable. Mais pour introduire ces échanges, je vais tout d'abord laisser la parole à Michel Audouy. Michel qui est paysagiste concepteur, retenez bien ce vocable, paysagiste concepteur, consacré par la loi sur la biodiversité et la reconquête des paysages, et vous êtes également secrétaire général de Valor.
Merci. Alors Valor, c'est l'interprofession des métiers de l'horticulture et du paysage, qui s'intègre ou qui a rejoint plutôt un programme européen qui est le programme Cité Verte il y a un peu plus de 10 ans. Ce programme fait la promotion du vert dans la cité sous toutes ses formes et à toutes les échelles. Valor est également organisateur d'un concours qui promeut les savoir-faire en récompensant les maîtres d'ouvrage. Ce concours, c'est Victoire du paysage, dont on va parler, puisque ce matin, trois aménagements de quartiers notamment ont été, et d'un campus, le campus du Crédit Agricole à Montrouge, ont été récompensés récemment par Victoire du paysage 2020.
Merci Michel de nous préciser tout cela. C'est très court et vous faites cet exercice brillamment et vous reviendrez conclure un peu avant 13h ces échanges. Alors nous allons parler en trois phases, toujours un plan très classique pour celles et ceux qui ont assisté à la première émission. D'abord avec les deux Catherine, le regard de deux directrices, et j'insiste sur le fait que ce soit des personnages féminins en charge du développement durable et de la RSE. Vous avez d'ailleurs toutes les deux un parcours dans la communication, dans vos groupes respectifs, et c'est intéressant de le souligner, pour voir le chemin parcouru depuis l'engagement climat, l'engagement pour la biodiversité, et puis aujourd'hui des projets concrets. Ensuite, on va parler des régionaux. Alors, il ne s'agit pas d'opposer Paris et la province, mais le témoignage de Pascal Louchet, qui a un parcours dans l'ingénierie, qui est écologue de formation et qui maintenant est aux manettes du développement durable d'un groupe implanté régionalement, mais qui, sur un certain nombre de projets, a une envergure nationale. Et on terminera avec le regard d'Emmanuel Régent, issu de la société civile. Vous avez un parcours riche que vous nous exposerez brièvement. Et puis enfin, après ces deux parties, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, Paris, la province, c'est un petit peu caricaturé notre plan, nous terminerons par l'exercice classique de questions courtes, réponses courtes, pour voir comment on peut accélérer cette dynamique. Alors, pour commencer, tout d'abord, question pour vous, Catherine P. et Catherine P. Comment le sujet de la biodiversité s'est-il imposé dans vos feuilles de route respectives? Il y a un titre d'ouvrage qu'on ne peut pas éluder, qui s'appelle « Le climat qui cache la forêt », qui est un livre déjà ancien. Je salue Yves Dieulessin, qui à l'époque nous avait conseillé, je crois, à plusieurs d'entre nous, cette lecture. « Le climat qui cache la forêt », écrit par Guillaume Saint-Denis. Une statistique que celles et ceux qui nous connaissent connaissent depuis 2018, issue d'une publication scientifique, on parle depuis 30 ans jusqu'à 8 fois plus du changement climatique que de l'érosion de la biodiversité, alors que le nombre de publications scientifiques est tout à fait comparable. Et pour terminer de planter, si je puis dire, ce décor, les scientifiques du GIEC, donc des experts du climat, et de l'IPBES, les experts de la biodiversité, ont, il y a 15 jours à peine, commis une tribune dans laquelle ils appellent à une mobilisation générale commune entre les enjeux de biodiversité et climat. Alors, mesdames, première question, comment passe-t-on d'un climat qui préoccupe tout le monde à la biodiversité ? Catherine Papillon.
Bon. Merci. La biodiversité, en fait, c'est un sujet qui nous anime chez BNP Paribas Real Estate, en fait, depuis plusieurs années, et qu'on traduit, qui s'exprime, en fait, dans les immeubles à la fois que l'on conçoit, qu'on rénove, que l'on gère ou que l'on occupe. Et en 2016, on a décidé de l'intégrer dans notre politique RSE au même titre que les thématiques des réductions des émissions carbone, l'efficacité énergétique ou encore l'économie circulaire. Alors pour nous, en fait, prendre en compte la biodiversité dans nos métiers, c'est à la fois une responsabilité, mais aussi une opportunité pour réduire notre impact environnemental, mais aussi pour innover et pour réinventer nos métiers. Et puis je dirais qu'en fait, on le sait tous, la biodiversité contribue à rendre les villes et les bâtiments plus attractifs. Et ça fait à la fois du bien, c'est un impact positif à la fois sur l'environnement, à la fois sur les personnes qui occupent ces villes et ces bâtiments, et aussi, in fine, sur le business, puisque économiquement, ça a un impact également. Mmh. On est convaincus.
Alors, évidemment, pour nos auditrices et nos auditeurs, notre propos n'est pas ici de dire que nous allons sauver complètement la biodiversité en intervenant en ville, mais que chacun peut faire sa part comme le colibri. Il y a des questions que nous ne pourrons probablement pas résoudre en si peu de temps, et notamment parce que les indicateurs n'existent toujours pas sur l'impact des matériaux sur la biodiversité. Là, on se situe plus à l'échelle de l'îlot bâti et du quartier. Et je me tourne maintenant pour la même question vers Catherine Pouliquin, comment est-ce que ce thème s'est imposé chez Crédit Agricole Immobilier et dans le groupe, par la même occasion, Crédit Agricole ?
En fait, cette question, Pierre, moi, elle me fait penser à un dessin humoristique qui était sur les réseaux sociaux il y a un peu plus d'un an, au début du premier confinement, où on avait une ville sur un petit promontoire où émergeait une bulle qui disait « Lavez-vous les mains et tout va bien se passer ». Et au-dessus de cette ville, il y avait une première vague, c'était la récession. La deuxième vague, c'était le changement climatique. Et le dessin est ressorti avec une quatrième vague qui était celle de la chute de la biodiversité. J'ai envie de dire que, oui, peut-être que médiatiquement, le climat est moins présent que les sujets de biodiversité, mais il est quand même très émergent, je trouve, moi, depuis 5 ans. En tous les cas, pour Crédit Agricole Immobilier et pour le groupe Crédit Agricole, j'ai envie de dire l'installation du groupe sur le campus Evergreen à Montrouge a sans doute marqué le pas d'une reconnexion avec la nature. On venait d'un univers très minéral dans le pôle Montparnasse. Et rejoindre Montrouge et rejoindre ce campus, ça a été un événement important pour le groupe et un gage d'attractivité pour les collaborateurs qui avaient sans doute un peu des réticences à rejoindre au-delà du périphérique la ville de Montrouge, et pour qui il y a eu un effet waouh indéniable dans cette attractivité pour ce campus. J'ajouterais que quand on est opérateur immobilier, on bâtit certes, on gère, mais on gère pour un quartier, pour une ville. Et prendre en compte le dedans, c'est important, mais le dehors, c'est tout aussi important, parce qu'on bâtit pour des gens, on bâtit pour des personnes qui vont occuper ces lieux dedans et dehors. Et prendre en compte ces sujets, ça apparaît aujourd'hui comme une véritable évidence. Tant les citadins que nous sommes ont besoin de ce contact avec la nature. Donc voilà, je pense qu'il y a un cheminement qui s'est fait un peu naturellement. Le campus, certes, mais aussi l'intégration dans un environnement plus large et pour lequel on doit prendre soin de la nature.
Alors Catherine, vous rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant d'Evergreen. Effectivement, comme l'a dit Michel Audouy, le campus a reçu, vous avez reçu avec les partenaires de ce projet la victoire d'or dans votre catégorie aux victoires du paysage, dont le palmarès a été décerné le 20 mai dernier. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, il faut concourir. Je m'adresse maintenant à Catherine Papillon. Catherine Pouliquen, vous avez parlé de cheminement. Tout à l'heure, j'ai relevé quelque chose dans la première émission, et pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, Thierry Laroupon, donc président de BNP Paribas Real Estate, parlait de votre projet de siège, avec la transformation d'une terrasse de direction en espace partagé, j'en dis pas plus, vous pourrez le détailler. Il a dit, c'est Catherine qui nous l'a proposé, et à Catherine, on ne peut rien lui refuser. Et j'insiste sur ce point, comment est-ce que ça a cheminé? Peut-être que l'autre Catherine voudra répondre. Il y a des résistances, il y a eu des résistances, tout n'a pas été simple. Vous avez expliqué comment est-ce que le climat a pu laisser une place à la biodiversité. Catherine, vous avez commencé à nous parler de projets, on va rentrer dans le détail avec Catherine Papillon, mais ce cheminement ne s'est pas fait tout seul, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que vous avez bataillé ou séduit, on va dire, en interne pour que ces projets lèvent ces résistances. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez?
Eh ben, en fait, le cheminement chez nous, il a été progressif et régulier. Je dirais que dès le début des années 2010, sur notre siège actuel à Issy-les-Moulineaux, on avait cette intention de mettre un peu de nature. Et on avait, comme l'a dit Thierry Laroupon tout à l'heure, mis des ruches, des nichoirs à oiseaux et un patio avec des murs végétalisés, ce qui à l'époque était assez innovant, pas très fréquent. Mais ce qui a vraiment fait accélérer le mouvement, c'est les appels à projets Réinventer Paris, Réinventer la métropole dans les années 2015-2016, qui ont incité les différents concurrents, qui concouraient à cet appel d'offres, à prendre en compte de manière structurée et profonde le sujet de la biodiversité et les bénéfices qu'elle apportait à la fois sur l'environnement, mais aussi sur les urbains. Et nous, à partir de là, on s'est dit, c'est bien, on a concouru, on a gagné, on a été lauréat sur un projet. Mais comment ça marche? Et on voudrait se l'appliquer à nous-mêmes pour voir comment on fait pour ce que l'on vend à nos clients, le mettre en œuvre et le vivre. Et donc, c'est à partir de là qu'en 2018, on a installé cette fameuse ferme urbaine sur les 640 mètres carrés des terrasses de notre siège, avec trois objectifs. Le premier, c'était d'en faire un démonstrateur, à la fois pour nos collaborateurs et pour nos clients, de la manière d'installer et gérer des potagers, une ferme urbaine dans un immeuble existant, parce que l'immeuble existait depuis déjà quelques années. Ensuite, le deuxième objectif, c'était de contribuer à la recherche et aux expérimentations sur l'agriculture urbaine. Et le troisième, c'était de créer des lieux de convivialité, un lieu pédagogique pour nos collaborateurs, un lieu de détente également, où on a des potagers qui sont gérés par des équipes de collaborateurs qui apprennent à cultiver quand c'est la saison, tel ou tel légume, tel ou tel herbe ou fruit. Et en même temps, on crée ce lien social qui est capital. Donc ça a été une étape aussi importante. On a eu d'ailleurs, on a été pilote, notre immeuble a été pilote du label Biodiversity Life en exploitation. Et on vient justement d'avoir le label qui nous a été attribué récemment. Voilà. On a également, à partir de 2018, on s'est engagé de manière plus régulière dans les initiatives aux communes, en fait, collectives, notamment en signant la charte Make Our Planet Green Again et le manifeste pour une ville nature, qui était initié par le CIBI, dont vous parliez tout à l'heure, Pierre. Et on s'est dit, bon, c'est bien, on a fait des essais, maintenant il faut qu'on structure et qu'on systématise la prise en compte de la biodiversité dans toutes nos activités. Et à partir de là, on a travaillé avec nos équipes de promotion, de property management, d'asset management, à une politique biodiversité avec des feuilles de route opérationnelles pour se dire, je conçois un nouvel immeuble, dès que je commence à le concevoir, je prends le crayon, je prends le sujet et je dis, qu'est-ce que je fais en termes de biodiversité? Comment j'y vais? Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant. C'était plutôt, comme on le disait dans la première émission, plutôt à la fin. Là, dès le début, on pose ce sujet-là. Et on a résumé, en fait, nos engagements dans une charte qui, avec cet engagement, On veut intégrer dans toutes nos activités, dès le départ des nouveaux contrats, des nouvelles missions, la biodiversité, mais on veut aussi contribuer à faire évoluer et à faire rayonner le sujet de la biodiversité avec l'ensemble de la profession des constructions de la ville.
Mais merci Catherine, vous avez esquissé un des éléments qu'on abordera dans les questions courtes, réponses courtes. Avant de passer la parole à Pascal Louchet, encore un petit mot de Catherine. Très bref en réaction, et puis peut-être pour nous donner quelques caractéristiques du campus Evergreen qui a été donc primé par rapport à ce qu'a évoqué Catherine. Donc on le voit bien, Madame Papillon, il y a à la fois le projet, les projets qui donnent l'envie par la pratique, les cahiers des charges qui font évoluer tout le monde, et puis ensuite, de votre côté, une systématisation avec la mise en place d'une démarche, et on continue par le projet. Catherine, quelques mots sur Evergreen, au-delà de la joie d'avoir eu cette victoire d'or.
Cette victoire d'or, effectivement. Dans les composantes évidentes du campus Evergreen, il y a la taille. 8 hectares en tout, donc 4 hectares dédiés aux espaces verts, à des bassins, à des canaux. Ça fait un potentiel de biodiversité extraordinaire. Ce que peu de gens savent, beaucoup connaissent les canards d'Evergreen, mais peu de gens savent qu'ils sont venus spontanément à mérir, je crois qu'on dit comme ça, sur les canaux, parce que la dimension de ces canaux le permettait. Là, tout récemment, on a photographié des orchidées. Alors moi, je ne suis pas du monde du végétal, et donc je ne connais pas les noms scientifiques de cette diversité de florale, mais c'est un collaborateur qui les a photographiés, qui les a publiés sur LinkedIn. J'ai envie de résumer ça à ce récent événement. Oui, on est labellisé Biodiversity Life. Nous aussi, on était dans l'équipe des pionniers sur cette labellisation. Et ce qui fait le cœur, en fait, du fonctionnement de ce campus, c'est nos équipes, c'est l'écosystème qui s'est mis en place depuis le paysagiste concepteur jusqu'aux équipes d'exploitation et jusqu'aux jardiniers qui, tous les jours, entretiennent, en lien avec les utilisateurs qui le visitent régulièrement, ce jardin. Ils le visitent, on organise des visites pour qu'ils le redécouvrent, même s'ils y sont tous les jours, parce que c'est un vrai gage d'appropriation, de pédagogie. J'ai entendu aussi ce mot-là tout à l'heure dans la précédente émission. La pédagogie est essentielle pour embarquer tous les acteurs sur ces sujets. Embarquer les collaborateurs, qui sont les usagers et qui bénéficient finalement de ces services de nature, quelque part, et de ce bien-être au sein du campus. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, sur nos opérations résidentielles. Mais j'y reviendrai juste après, je pense.
Oui, absolument. Et puis citons également, d'un point de vue paysager, ce qui sera cher à Michel. Vous avez cité le fait qu'il s'inscrit, ce campus, dans un quartier. En l'occurrence, Crédit Agricole a permis l'élaboration d'un parc qui, lui, est ouvert au public.
Exactement.
Et si je ne dis pas de bêtises, le campus offre aussi des vues et des perspectives qui le traversent. On ne peut pas, évidemment, le traverser facilement si l'on n'est pas invité à s'y rendre, puisque c'est un siège social. Mais notre œil peut voir de part et d'autre en transparence.
Et on a soigné également l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire que cette présence de la nature, elle est pas seulement dehors, elle est dedans. Et cette porosité avec la ville qui se traduit par des transparences, notamment architecturales, mais aussi des grilles de séparation avec les espaces de ville, constitue des atouts aussi indéniables sur cet état d'esprit, je dirais, qui règne autour de la nature sur le campus.
Voilà, donc vous avez maintenant les caractéristiques d'Evergreen et peut-être quelques clés pour celles et ceux qui sont côté maître d'ouvrage et qui nous écoutent, public pour Territoria et privé pour Radio Immo. Il ne vous reste plus, comme BNP Paribas Real Estate, à participer à la prochaine édition des Victoires du Paysage. On a vu l'émulation créée par le label Biodiversity. Nous aussi, voilà, c'est une boutade. Hein, il ne reste plus qu'à participer à ces trophées. Alors justement, parlons d'un autre lauréat et partons dans la région Occitanie et la région Sud avec Pascal Louchet. Pascal, vous avez écouté le témoignage de représentants de deux grands groupes, j'espère bien. Est-ce que vous partagez ce cheminement et comment est-ce que vous l'avez vécu dans l'entreprise et peut-être nous dire quelques mots sur le groupe GGL.
D'abord, très fier d'être avec ces partenaires, donc avec les big, on va dire, qui ont la possibilité de développer une politique globale de RSE. Je dirais que GGL Aménagement, nous, on a aussi des atouts. On est vraiment sur le pragmatisme et sur l'opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on décline. D'abord, on est en contact direct avec les élus, donc les collectivités territoriales ou les élus. Donc, une écoute avec un changement qui s'est fait de façon importante au fil du temps, pas forcément depuis les dernières élections municipales, mais je veux dire au fil du temps, on a vu poindre ces notions d'environnement, d'agriculture urbaine, de lien social, etc. Et donc, on a dû répondre à ces éléments-là. Et ma place au sein de ce groupe est un petit peu atypique, puisqu'en fait, elle décline depuis effectivement les appels d'offres et la recherche de labellisation ou de certification, donc très en amont des projets, jusqu'aux aspects beaucoup plus opérationnels de conduite de chantier, d'avoir des chantiers verts, d'impliquer les entreprises aussi dans la réalisation, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'était peut-être bien d'avoir des très belles idées, des très belles études environnementales en amont, mais qu'après, il fallait la décliner jusqu'au conducteur de l'engin, et on a eu quelques réussites dans ces domaines-là. Et puis aussi, maintenant, ce que l'on intègre de plus en plus, c'est cette maîtrise d'usage. C'est-à-dire que nous, on est là sur le long temps, et notamment, on a un territoire, vous parliez de l'Occitanie, bon, on s'étend un petit peu, mais on est toujours présent sur le territoire, et on veut que nos opérations soient le meilleur reflet de notre savoir-faire. Et donc, on est aussi là après. Et donc, cette maîtrise d'usage nous impose d'être présent, être à l'écoute et d'avoir une certaine résilience par rapport à des phénomènes nouveaux. Je prends souvent l'exemple aujourd'hui, je dirais, il y a une quinzaine d'années, qui pensait mettre des places de recharge pour véhicules électriques, par exemple, donc, alors qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Peut-être qu'aujourd'hui, personne ne pense à mettre des aires d'atterrissage pour drones commerciaux. Voilà. Donc je pense que la biodiversité, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a pas intégré, directement. C'est vrai que c'était une contrainte aussi réglementaire. On est sur du zéro artificialisation net. Donc sur les projets de ZAC ou de lotissement, c'est quelque chose qui s'impose. Et les SCOT, les PLUI, les collectivités territoriales sont plus en plus précises sur leur demande de non-imperméabilisation des sols. Donc c'est une contrainte, certes, mais on dit souvent d'une contrainte, on en fait un atout. Et on a transformé, jugulé un peu cette contrainte en l'intégrant. Avec aussi d'autres sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, la multiplication des espaces verts, le terme espace vert ne nous convient pas trop. Mais enfin, la multiplication des espaces verts conduit souvent pour des petites communes à des augmentations d'entretien et de gestion. Ça a été dit ce matin ou tout à l'heure pour les USH. Il faut intégrer aussi la fonctionnalité pour être sûr d'avoir une pérennité des aménagements. Donc, c'est vrai qu'on intègre... Alors, la nature en ville, ouais, non, c'est plutôt intégrer la biodiversité, l'agriculture, qui devient vraiment un vrai sujet aussi, et l'urbanisme. C'est-à-dire que c'est la nature en ville, mais c'est aussi la ville dans la nature. C'est un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu dans un vrai mélange qui se fait. Et puis dans le sud, on a aussi cette grosse problématique de la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'artificialisation des sols et l'imperméabilisation, c'est un vrai sujet. D'abord, pour les végétaux, c'est un sujet. L'eau, c'est essentiel dans le sud. On a le soleil, mais il faut aussi cette autre composante. Donc dans le choix des essences et la fonctionnalité. Mais en même temps, pour la recharge des nappes, qui devient vraiment un sujet. Donc le développement durable s'est imposé dans ses fonctionnements, soit réglementaires, soit constitutifs. Et donc, on intègre à chaque fois dans nos équipes, ça a été dit aussi tout à l'heure, de plus en plus de professionnels qui sont là pour nous accompagner dans des compétences qui sont, alors peut-être anciennes, mais qui sont de nouveau émergentes.
Et par rapport à votre parcours, peut-être, c'est assez éclairant. Ouais. Vous avez commencé de l'autre côté de la barrière. Catherine et Catherine pourraient complétées puisqu'elles ont commencé à la com et elles se sont formées et c'est probablement un atout d'être communicant pour faire cheminer la RSE. Quelques mots sur votre parcours et puis aux éventuels à ce chemin parcouru, aux éventuels freins que vous avez rencontrés.
Déjà, ça revient un petit peu sur l'introduction que vous avez faite en disant que c'était féminin. Donc ça, c'est vrai que je pense que la notion d'environnement et d'intégration de l'environnement et du futur et du développement durable est une notion des féminines. Donc je ne renie pas ma partie féminine, ça ne veut pas dire que c'est... Voilà. Mais donc, c'est un élément important parce qu'on projette sur l'avenir, etc. Donc mon parcours, effectivement, est particulier puisque je suis issu de l'ingénierie, donc écologue, et puis ayant travaillé dans des grands groupes d'ingénierie. Et... c'est une boutade, j'espère qu'ils n'écoutent pas, mais d'avoir pacté un petit peu avec l'aménageur, c'est-à-dire d'intégrer l'aménagement pour faire bouger un petit peu les lignes. D'abord parce que l'aménageur lui-même était conscient de cette nécessité d'intégrer ses compétences en interne. Et puis moi, parce que je trouvais qu'il y avait un terrain de jeu là qui était intéressant et de pouvoir réaliser des choses.
Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce changement? Vous avez pu faire bouger les lignes?
Ouais. On a des réussites, on a aussi bien sûr des choses qui fonctionnent moins bien, donc c'est ça qui nous fait progresser aussi. Hein. Donc on met en place des systèmes d'innovation, de retour d'expérience, parce qu'étant donné qu'on a un territoire assez vaste, et aussi une granulométrie des opérations qui est importante, parce qu'on a aussi des petites opérations, et j'ai bien apprécié dans les résultats que vous avez donnés, c'est qu'il y a des très gros projets, des petits projets, des projets privés, des projets publics. C'est très bien de faire cette distinction, parce que souvent on a des petites communes qui ont des tout petits projets, mais sur lesquels l'enjeu environnemental, d'une façon globale, est essentiel. Et ça peut être un sujet important. Donc c'est vrai qu'il y a des réussites, il y a aussi des choses qui sont un petit peu moins faciles, mais oui, globalement c'est une réussite, au point même que dans notre société, et d'ailleurs c'est un peu en reflet de nos opérations, je suis certain qu'il faut que les choses viennent aussi de la base. Et dans notre société, ben, il y a un groupe DD, je fais de la pub pour la Française des Jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cochon qui grattait les éléments. Voilà. Donc il y a un groupe DD qui s'est formé, d'ailleurs notre logo c'est un petit cochon, dans le cochon tout est bon, on recycle, etc. Et il y a un groupe comme ça qui a émané, mais qui n'a pas émané de la direction ou de la direction a suivi, mais c'était pas, au départ ce sont des gens qui se sont réunis au sein même de la structure pour faire évoluer avec le principe de grand-mère qui de dire ne demandons pas aux autres ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Et on va commencer comme ça. Et donc on est sur un principe de certification en vol et peut-être bientôt 14 000.
Bien, eh bien, avis aux auditrices et aux auditeurs qui voudraient rejoindre GGL, vous pouvez devenir DD. Mais au-delà des petits cochons, vous parliez de réussite, il y a même une consécration, on peut le dire, c'est une boutade, mais vous avez été récompensé aux victoires du paysage avec une victoire de bronze qui est le quartier Via Domitia Olivette au Crès, j'espère que je ne... fais pas d'erreur de prononciation.
Via Domitia, mais oui.
Via Domitia, voilà, j'hésitais, c'est perdu, j'ai perdu à Dédé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, c'est un projet qui est intéressant parce que c'est vrai que, vous savez que dans le terme de la biodiversité, on applique fréquemment la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et dans l'établissement de ce concept, d'abord, on était accompagné de professionnels, le cabinet atelier Antoine Garcia-Diaz, donc des gens qui nous ont réellement accompagnés. On monte à chaque fois des équipes pour chacun des projets. Et donc, on a fait valoir vraiment cet élément-là. C'est-à-dire que le meilleur végétal, c'est un peu comme l'énergie, le meilleur végétal, c'est celui qui est préexistant à l'opération. Donc, il y a eu réellement un diagnostic préalable, à la fois topographique, bien sûr. Donc là aussi, on a des gains... qui rejoignent aussi l'aspect économique, mais à la fois topographique et des végétaux, afin de maintenir les unités végétales les plus importantes. Et du coup, l'aménagement urbain s'est calé en étant un aménagement, on va dire, biologique, c'est-à-dire avec des voies qui sont circulantes, mais qui sont quand même ondulées, et avec ces aménagements-là qui se sont... et en plus, avec un environnement qui est assez particulier, puisqu'il y a un lac, il y a une garrigue, donc il y a une connectique avec ces espaces qui étaient en continuité avec des ouvertures de flux de déplacement doux, qui est aussi un élément de découverte du paysage. Donc vraiment, pour que souvent on est titré sur une opération avec un périmètre, mais on dézoome pour avoir un écrin. Donc vraiment cette volonté de s'ouvrir, d'avoir des essences effectivement qui étaient favorables, parce que l'hydraulique est un sujet, encore une fois, l'arrosage est un vrai sujet. Et puis la gestion de l'espace public-privé, qui est aussi une vraie réussite pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, on plante sur l'espace public, donc qui est après rétrocédé aux communes, mais on plante également, on fait du préverdissement au-delà de la clôture, dans l'espace privé, et donc c'est très bien perçu par les riverains, et donc on arrive à avoir des unités végétales vraiment très présentes dans les milieux.
Alors merci pour cet exemple. On va maintenant passer la parole à Emmanuel Régent, puisque l'action en faveur de la nature, d'une manière générale, ne se limite pas aux métropoles, ne se limite pas aux logements, aux bureaux. Comme aurait dit Souchon, maintenant on taille la zone. Que faire des zones C'est un peu, si je résume à l'emporte-pièce, l'objectif de Biodiversio, cette association que vous avez créée, Emmanuel, en décembre 2020. Alors, ma première question va être, qu'est-ce qui a cheminé chez vous et qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette association? Évidemment, vous pourrez nous donner quels sont ces objectifs. Et puis, je tiens à dire, et peut-être vous pouvez nous éclairer de ce point de vue-là, vous avez un parcours qui est riche, associatif, notamment dans des associations de protection de la nature. Et donc, c'est important de voir comment est-ce que vous êtes passé à cette étape-là. Qu'est-ce que vous êtes allé faire avec les zones, Emmanuel ?
Merci Pierre de m'avoir invité. Je vais essayer de faire assez court. Je suis l'autodidacte de la matinée. Moi, je suis né avec un chromosome de biodiversité. Je suis dans l'associatif depuis plus de 40 ans. Je travaille avec les élus depuis quasiment autant de temps. Au niveau études, j'étais parti pour être éco-éthologue, mais dans les années 80, il y avait peu de place, donc je suis parti dans le pharmaceutique, autant que cela puisse paraître curieux, mais dans le préventif, dans le diagnostic médical. Ensuite, j'ai viré dans le monde assurantiel, toujours dans le préventif finalement, mais ce qui m'a permis de connaître énormément d'entreprises, le monde réel, le monde économique réel grâce auquel nous vivons. Et en tant que président d'associations relativement importantes, j'étais frustré. Et le confinement m'a permis de prendre un peu de recul, parce qu'au niveau professionnel, bah, comme beaucoup, 80% de mon activité professionnelle a chuté. Mais j'ai eu la chance d'être en milieu rural, d'avoir un jardin qui fait plus d'un hectare. Et le confinement s'est fait au mois de mars, ce qui est pour un naturaliste la meilleure saison. Donc j'ai pas trop souffert du premier confinement. J'y réfléchis. Et je me suis dit, il y a effectivement un problème pour la biodiversité, mais qui est lié au climat. Et pour moi, l'urgence est réellement climatique. La biodiversité suivra. Et le monde associatif, comme le monde politique, est un monde lent. Le monde politique, il a une vision de 5 ans, il agit sur 5 ans. Une association, quand elle travaille, ce qu'elle fait, c'est indispensable, mais elle va travailler, pareil, sur des projets sur 2 ou 3 ans. Quand je dis des projets, c'est un projet par association. Je trouve ça trop court. En plus, comme président d'association, moi, je voulais qu'on se rapproche du monde économique que je connaissais. Mais là, ça ne matche pas, comme on dit. C'est-à-dire que les naturalistes, ou professionnels ou amateurs, sont incapables d'avoir un discours approprié pour le chef d'entreprise qui lui-même ne les comprend pas. Donc je me suis dit, il faut prendre les deux taureaux par les cornes. On va créer une association pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, pour communiquer avec les chefs d'entreprise. Biodiversio est né comme cela. Donc, je suis parti avec 25 membres fondateurs qui sont des organisations patronales, qui sont des entreprises locales, pour créer de la biodiversité donc en milieu urbain et industriel. Plusieurs raisons à cela. Vous avez parlé de pédagogie. Pour moi, c'est fondamental. Ça fait des années que dans le milieu associatif, on dit il faut faire ceci, il faut faire cela. La gestion différenciée des espaces verts, par exemple. Mais ça fait des années qu'on le dit et très peu le font. Donc je me suis dit, la meilleure des choses, c'est l'exemple. Le meilleur exemple, il faut le multiplier. Et les surfaces pour les multiplier, elles sont où? Elles sont en zone d'activité professionnelle. Donc les ZA, ZI, etc., qui plus est, il faut se souvenir, ont été construites à 80 ou 90% sur des zones humides. La disparition des zones humides, c'est un peu la problématique du sujet. Donc je me suis dit que la majorité des entreprises qui sont sur ces zones-là, c'est quoi ? C'est un bâtiment qui est sur un terrain qui leur a été donné sans réfléchir à l'usage du terrain. Donc l'entreprise utilise tout ou partie du foncier, mais généralement, il y a une partie du foncier qui n'est absolument pas utilisée pour l'activité elle-même de l'entreprise. Ben, je me suis dit, banco, moi, 25 mètres carrés, ça me suffit. Un balcon, ça me suffit. Bon, là, je débute avec des projets de 3 hectares. Bon, c'est comme ça. Hein. Qui peut le moins, peut le plus. Et là, à partir de cela, il est très facile de faire revenir de la biodiversité. Moi, je baigne dedans depuis toujours. On parle de biodiversité. Ce matin, j'entendais de biodiversité augmentée. Non, c'est pas le terme. Mais il faut savoir que la biodiversité, ça se cultive comme on cultive des salades. C'est-à-dire que si on veut qu'elle revienne, le plus simple, c'est de rien faire. Mais suivant le terrain où on a, si c'est béton ou bitume, on va attendre 30 ou 40 ans pour qu'elle revienne. C'est un peu lent. L'objectif climat, c'est 2030. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'objectif que je me suis donné. 2030, c'est dans 10 ans. Donc 30-40 ans, ça va... Bon. Par contre, le génie écologique, c'est faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que la surface est entièrement artificialisée qu'on peut rien faire. On peut remettre de la vie sur du béton et du bitume. Donc voilà, c'est ça ce que j'appelle cultiver la biodiversité. Après, on parle paysage, on parle nature en ville, c'est indispensable. Parce qu'on oublie plusieurs choses dans le concept de biodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas quelque chose qu'on met sous verre. Jusqu'alors, le reproche que je faisais à la protection de la nature, c'était des mises sous cloche. Et on pensait, on va aller en forêt, on va aller en campagne, voir un peu ce qu'est la biodiversité. Et quand on dit remettre de la biodiversité, c'est quoi? C'est remettre ce qu'il y avait il y a 20, 30, 40, 50 ans? C'est impossible. La biodiversité, c'est quelque chose qui est un mouvement perpétuel. Donc ce qu'on a perdu aujourd'hui, on gagnera autre chose demain. C'est un équilibre. Aujourd'hui, c'est plutôt un déséquilibre du fait de l'activité humaine. Il faut retrouver un équilibre qui ne sera pas celui d'hier, mais qui sera celui de demain et qui pourra sûrement atténuer les problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est fondamental. Une autre chose qu'on oublie dans la biodiversité, c'est que l'homme fait partie entière de la biodiversité. Donc exclure la biodiversité de l'humain ou exclure l'homme de la biodiversité, mais c'est une erreur totale. Donc il faut toujours penser l'homme de la biodiversité. C'est pour ça que le chef d'entreprise, son activité économique est hyper importante. Et je préfère aller sur ce terrain qui est quasiment un terrain vierge qu'aller là où les associations font très bien, c'est-à-dire la protection de ce qui est encore possible, pour créer de nouveaux îlots de biodiversité. Et ça, c'est quelque chose, si tout le monde s'y met, qui peut être très porteur en visuel. Gestion différenciée des pelouses, c'est quoi? C'est on arrête de tondre 100% de la pelouse. Hein, on va tondre le bord de l'allée sur 1 ou 2 mètres suivant la surface et on laisse pousser. Parce que de la pelouse... Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité aussi? Là, on parlait verdure, on est entouré de verdure, c'est super. Il y a un problème. Il y a un mot que j'ai découvert pendant le confinement, c'est l'amnésie environnementale. L'amnésie environnementale, c'est un concept très fort. Ça veut dire que nous avons tous, autour de cette table, une idée de la biodiversité qui correspond à celle qu'on avait lorsqu'on avait 10 ans, de là où on a grandi lorsqu'on avait 10 ans. Moi, j'ai l'impression que je dois être le plus ancien ici. Moi, lorsque j'avais 10 ans, j'étais au bord d'une mare, il y avait des dizaines de grenouilles, il y avait des salamandres, il y avait des tritons, il y avait des couleuvres, il y avait des poules d'eau, et ça sur une mare pas plus grande que ce studio. Aujourd'hui, je vous défie de retrouver ça. Impossible. Donc voilà, moi j'ai une idée relativement forte de la biodiversité. Les gens qui sont venus après moi, comme elle s'est dégradée très très rapidement en 30 ans, ont une vision différente. Mes enfants, qui pourtant ont eu comme père la personne que je suis, ont une vision qui est malheureusement appauvrie. Et je dis ça pourquoi? Parce que si on ramène de la verdure comme il faut, donc un arbre, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Et lorsqu'on associe deux êtres vivants ensemble, on crée quelque chose. Si on se débrouille bien, cette verdure va ramener des insectes. Et là, problème. On vient de passer une trentaine d'années où tous les jours à la publicité, on nous disait que les insectes étaient négatifs. Donc l'insecte, aujourd'hui, est un concept négatif. Or, les insectes, c'est quelques millions d'individus qui nous entourent. Je vais vous prendre un exemple rapide, puis je vais arrêter là. On a fait un forum de professionnels il y a une quinzaine de jours, et il y a une société que je peux nommer, qui s'appelle le Prieuré Végétal, qui végétalise entre autres des murs parisiens. Ils se sont aperçus d'une chose assez curieuse, un mur végétal sur plusieurs étages qui fonctionnait très très bien, il y avait des trous. Ça poussait moins bien par endroit. Ils se sont inquiétés auprès des locataires. La réponse était simple. Ce sont les locataires qui découpaient les végétaux autour des fenêtres, parce que le problème des végétaux, ça faisait bzzz. Et comme ils ont des enfants, ils avaient peur. Donc la biodiversité, si on veut la réintégrer, il faut passer par de la pédagogie au jour le jour. C'est fondamental.
Et on peut le faire sur le parking d'un centre commercial.
Absolument.
Qui ne sera peut-être plus un centre commercial classique, d'une fameuse zone logistique ou d'une zone industrielle. Emmanuel, on voit à la fois la passion qui vous anime, et je le dis de manière positive, en tout cas dans ma bouche, pour celles et ceux qui me connaissent savent que c'est très positif, et par ailleurs les connaissances sur lesquelles vous vous appuyez. Et je pense que ce coup de projecteur que vous faites aujourd'hui sur Biodiversio amènera, je l'espère, de riches collaborations. Alors vous parliez de l'amnésie environnementale, le revers positif que le Graal que tout le monde essaie de susciter, ce sont ces fameuses expériences de nature. On le voit parfois dans des milieux très dégradés, ça n'est pas évident. Alors pour les 5 minutes qu'il nous reste, si chacun, chacune d'entre vous devait dire quels seraient les leviers d'action concrets dans vos organisations respectives ou pour convaincre celles qui ne sont pas aussi impliquées que les vôtres pour massifier, pour amplifier cette action qui, comme Emmanuel l'a indiqué, est très diverse suivant le référentiel historique et personnel que l'on a et puis les lieux dans lesquels on intervient. Peut-être Pascal.
C'est vrai que nous, on est en train de mener beaucoup d'ateliers dans le cadre de labellisation éco-quartier ministère. Et dans les ateliers dans lesquels il y a beaucoup de professionnels, mais aussi des associations de représentants de riverains qui émanent, ce qui ressort et qui n'était peut-être pas l'élément qu'on mettait vraiment au départ devant, c'est effectivement la demande des gens, de lien social et la gestion d'espaces qui ne sont pas forcément des espaces. J'ai bien aimé le vocable que vous avez employé tout à l'heure, qui était de dire rendre des terrains capables. Et c'est vraiment de construire avec les gens, puisque c'est ça qui garantit la pérennité. Et donc être à l'écoute de plus en plus de cette situation.
Catherine Papillon.
Moi, je dirais qu'il faut sensibiliser, former, démontrer et en effet attirer les gens concrètement sur le terrain. Et on voit que ça a un capital sympathie, la nature extraordinaire. Et puis deuxième chose, il faut absolument qu'on travaille tous ensemble, public, privé, associations et tous ceux qui fabriquent la ville, pour vraiment prendre le sujet ensemble et quelle que soit la taille du projet sur lequel on travaille, de mettre cette biodiversité sur le dessus de la pile des priorités.
Catherine Pouliquen.
Faire du participatif à fond, de la co-construction avec les futurs habitants des opérations résidentielles sur lesquelles on va installer de l'agriculture urbaine. Nous, on a fait un démonstrateur à Toulouse. On y a mis des poules, du houblon, des plantes aromatiques, de la permaculture, et nos collègues mettent les mains dans la terre. Ils y prennent du plaisir. Quand on a fait cette étape-là, déjà, on a franchi une grande étape. Et puis, je vais reprendre ma première casquette, communiquer, beaucoup communiquer, expliquer, faire de la pédagogie, on l'a dit. Hein. La nouvelle que vous nous avez annoncée, qui est... On peut recréer de la biodiversité, y compris sur du bitume, c'est une bonne nouvelle. Il faut la prendre, il faut la valoriser pour embarquer tout le monde. Et nous, notre meilleur repère, c'est nos clients. On a fait une enquête de satisfaction récente sur des opérations résidentielles où on a déployé des installations d'agriculture urbaine avec des dispositifs d'accompagnement avec des petites entreprises locales du paysage ou de l'agriculture urbaine. Et on a un taux de retour extraordinaire de clients qui nous disent « c'est vraiment formidable, c'est un vrai plus dans la résidence, je connais déjà mes voisins parce que je les ai rencontrés autour du potager ». Et ça, c'est la meilleure des récompenses dans la prise de conscience que ce retour à la nature, il est possible. On ne transforme pas du jour au lendemain des citadins en jardiniers et en agriculteurs, mais on franchit des étapes à chaque fois qui sont importantes. Et je terminerai en disant que en interne, hein, avec les équipes, on a dès qu'on parle de ces sujets, on a un taux de retour là aussi qui est quasi à 100%. Quand on leur demande de se mobiliser pour travailler à la suite de notre projet, à la manière de le développer, de le renforcer, clairement, ils sont très satisfaits et on n'a pas trop de mal à les embarquer finalement.
Prendre un citadin par la main, ça pourrait être un résumé. Emmanuel, le mot de la fin avant Michel.
Je dirais la même chose, c'est-à-dire que la communication est fondamentale, la formation aujourd'hui, parce que l'amnésie est là, et donc il faut faire une formation, mais une formation terrain, pas forcément universitaire. L'exemple, le visuel est hyper important, c'est-à-dire que les gens, ce n'est pas par l'écrit qu'ils vont agir, mais c'est par le visuel. Le participatif, moi c'est ce que je fais sur les sites professionnels où je suis, faut que je trouve toujours une idée pour que les salariés y participent. Je vais prendre l'exemple du houblon, je l'ai proposé comme ça pour rigoler. On va faire de la culture du houblon. Le houblon est une plante locale, il ne faut pas l'oublier. On peut faire de la bière, mais c'est une plante locale. Il y a des abeilles qui sont spécialisées. Donc tout ça, c'est hyper important. Et l'esthétisme, c'est-à-dire que la biodiversité, ce n'est pas un roncier, enfin ce n'est pas qu'un roncier, ce n'est pas qu'une friche. On peut faire biodiversif et beau.
Michel, j'aurais 5 minutes. On est très large. Vous pouvez même prendre 3-4 minutes pour faire la conclusion avant de saluer tout le monde.
Bon, bah, très bien. Je me permettrai d'être un petit peu plus bavard. Je vais donner une conclusion optimiste, professionnelle que je suis à savourer les différentes interventions qui traduisent une évolution, d'ailleurs, au-delà du discours, de la prise en compte des enjeux environnementaux. Les enjeux ont changé, les références aussi. On le voit dans le vocabulaire, hein, on parle de climat, de biodiversité, de sol, de qualité du sol, de la qualité de l'air ou de l'eau, de fertilité également, d'agriculture en ville. Ce que nous appelons désormais, nous, dans le monde professionnel, les services écosystémiques, donc rendus par la nature, en particulier en ville, mais sur l'ensemble du territoire, doivent devenir systématiquement, je dirais, le socle de la ville de demain. Quand je dis le socle de la ville de demain, je comparerai à ce qu'était au XIXe siècle, dans la ville du XIXe siècle, et notamment la ville haussmannienne, l'assainissement de la ville, ou d'ailleurs le végétal, les espaces verdoyants, pour utiliser le terme de l'époque, avaient aussi leur place et faisaient partie finalement d'une ville qui se constituait aussi en réseau. Je pense que, comme l'été aussi, ou comme le seront les transports, je dirais hélas aussi au XXe siècle, qui ont constitué la ville du XXe siècle et sur lesquels on revient aujourd'hui, notamment pour réduire la place de la voiture, retrouver des espaces justement ou réinstaller de la nature en ville. Je me réjouis de constater une évolution dans les projets. Nous avons de plus en plus de projets de qualité qui intègrent ça. Et c'est un plaisir, notamment dans le cadre des Victoires du Paysage, de rencontrer les différents acteurs, du technicien en passant par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Et cela traduit bien une véritable évolution, d'ailleurs, des pratiques, à la fois des pratiques des maîtres d'ouvrage, même s'il reste bien sûr encore pas mal de marge. Et là, je rejoins un certain nombre de remarques de la table ronde, et notamment sur cette question de la formation, de la sensibilisation, de la communication, me paraît extrêmement essentielle. Et puis, c'est une évolution aussi des techniciens, à quel que soit le niveau d'ailleurs, et qui est en cours, hein, on le constate. On a à la fois des techniciens de l'écologie, mais au cours des dernières Victoires du Paysage, de ces fameuses visites techniques sur le terrain, j'ai rencontré aussi des ingénieurs des ponts et chaussées, nouvelle génération, qui parlaient quasiment aussi bien que des paysagistes concepteurs, des projets que l'on visitait, et en l'occurrence un projet remarquable de jardin sur un campus universitaire à Saclay, qui est à la fois un jardin, un très beau jardin, avec tous les usages que comporte un jardin, mais qui est également un lieu de biodiversité et aussi, et presque avant tout, puisque c'est ce qu'il a financé au départ, un bassin qui gère aussi les eaux pluviales. Merci.
Merci beaucoup, Michel. Alors, je vais relever quelque chose qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. Il a dit on a besoin d'images. Chères auditrices, chers auditeurs, à travers cette émission, on a utilisé un autre média. L'image pour nous voir, mais effectivement pas des projets. Et puis l'oralité, cette transmission orale, nous espérons qu'elle vous a atteint. Chacun a parlé avec ses mots. Il ne s'agit absolument pas de prétendre définir de manière académique des termes que nous avons manipulés, diront certains puristes, avec facilité. On voit bien qu'il y a une porosité entre tout cela, et on a vu, grâce à vous, comment on passe de la théorie, de l'engagement obligé, on va dire, de la responsabilité sociétale de certaines entreprises à la pratique dans les projets avec des acteurs du paysage, de l'écologie, mais aussi tous les métiers, comme vous venez de le dire, Michel, qui sont dans les infrastructures. Ce serait un autre sujet que de parler des infrastructures vertes. Alors, merci à toutes et à tous. Merci Pascal Louchet de GGL d'avoir fait le déplacement. Merci Catherine Papillon de BNP Paribas Real Estate. Merci Catherine Pouliquin de Crédit Agricole Immobilier. Emmanuel Réjean, président fondateur de Biodiversio. Un autre papillon qui va prendre son envol, j'en suis persuadé. Et puis, cette émission n'aurait pas été possible sans la volonté de l'organiser de Valor. Je remercie ici Michael Mercier, qui en est le président, Michel Audouy, qui est son bras armé, son bras droit, et notre représentant pour le paysage. Je rappelle que vous êtes aussi le président du jury des Victoires du paysage, donc il faut candidater. C'est pour bientôt, suivez le site. Et puis, merci à la délégation générale de Valor, à Emmanuel Bougot et à Jean-Marc Vass. Enfin, last but not least, cette émission, elle est permise par les patrons des Web Radio Éditions, Radio Imo et Radio Territoria. Je salue Olivier et Sylvain. Et enfin, on ne les voit pas, mais ils œuvrent depuis plusieurs jours à l'élaboration de cette émission. Je salue Jason et Pierre-Yves à la technique. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Restez connectés, car Ville Nature reviendra très probablement à l'automne avec plusieurs épisodes. Il sera probablement question des relations entre la nature, le paysage et la santé dans toute sa complexité. Pourquoi pas aussi parler des nouvelles mobilités, de l'arbre, des collaborations publiques-privées. Donc restez connectés, radio.imo et radioterritoria.fr et sur les réseaux sociaux avec les comptes de Valor et de chacune et de chacun des intervenants. À bientôt.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.